Antipop Consortium sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Nous voilà déjà arrivés à la dernière partie de Déclic et nous sommes toujours avec Fibre Tigre et Myriam Wally qui est venue donc nous parler de Enormal Lost Phone, un jeu mobile qui est toujours en financement participatif sur la plateforme Kickstarter que vous pouvez aller aider et qui sortira cette année. Oui.
C'est sur Ulule et pas sur Kickstarter.
Ah pardon, excusez-moi, je croyais que j'avais entendu Ulule. J'avais entendu Kickstarter tout à l'heure. Donc sur Ulule, contrairement à ce que je viens de dire. Dans cette dernière partie, nous allons nous éloigner un petit peu du genre du jeu vidéo pour aller vers d'autres horizons en remontant le fil d'Oriane avec Oriane Urard.
À la pointe de la technologie, Déclic est aussi sur les réseaux sociaux.
Alors Oriane, ce soir, tu as décidé de nous parler des interfaces et de leurs liens subtils avec la narration.
Tout à fait Alexandre, on a vu que dans le jeu Enormal Lost Phone, l'interface du jeu fusionne avec l'interface du support, ici donc celle d'un téléphone perdu. Elle devient ainsi l'interface de l'histoire, le théâtre de l'action. Et quels sont les autres exemples dans la fiction, le jeu vidéo ou ailleurs où l'interface se marie à ce point avec son histoire. Remontons le fil ensemble. Bon nombre de fictions transmédia, ARG et autres web documentaires se sont fondés précisément sur la porosité entre réel et virtuel, s'intéressant à notre rapport aux nouvelles technologies, à la fois comme support évidemment, mais aussi comme sujet. Quand le fond et la forme se confondent, certaines interfaces deviennent des œuvres et inversement. En 2010, déjà, le feuilleton quotidien Fanfan 2, financé par Orange, proposait une application à télécharger, une application reproduisant depuis son téléphone le vrai faux téléphone d'Alexandre, le héros de l'histoire, lui-même un alter ego fictionnel du vrai romancier Alexandre Jardin. Le contenu de l'histoire était donc accessible via ses notes, ses mails, ses SMS. L'autofiction s'était numérisée. Plus tard, d'autres séries françaises ont proposé une déclinaison transmédia similaire. Ainsi, la série Clem sur TF1 et la série Cut sur France O, deux séries qui sont d'ailleurs encore en cours de diffusion, ont à un moment donné permis l'accès au vrai-faux téléphone de leur héros adolescent, le tout couplé à du contenu spécifiquement conçu pour les réseaux sociaux. Avec Clem et Jules, le fait est clair, avoir accès à leur téléphone, c'est avoir accès à leur intimité. Le téléphone serait donc devenu le nouveau journal intime des adolescents, dessinant un portrait en creux de nos héros de fiction. Avec des exemples plus récents, la question de la représentation de l'interface s'est d'une part accentuée du fait de l'importance de plus en plus grande des écrans dans nos vies, et d'autre part est arrivée aussi à une sophistication plus grande, et surtout dans les projets interactifs. En effet, dans des jeux narratifs comme Her Story ou Sibeli, deux jeux dématérialisés accessibles sur Steam, notamment, l'interface informatique est devenue, comme d'ailleurs dans Enormal Lost Phone, celle du gameplay. Dans Her Story, dont nos invités ont déjà parlé, l'interface est donc celle d'une base de données de la police et dont la barre de recherche va constituer l'unique moyen pour le joueur de résoudre ou du moins de comprendre l'enquête en cours. Dans Sibeli, l'interface est hybride. Le jeu commence par la reproduction du bureau d'ordinateur de l'héroïne, donnant accès à la fois à ses fichiers personnels qui permettent de retracer son histoire d'amour virtuel, mais aussi à un gameplay de jeu plus classique avec différents niveaux à parcourir et des méchants à combattre. Si on quitte le champ de l'interactif, la question de l'interface hante aussi les histoires contemporaines. On ne compte plus les séries et les films où l'on voit souvent des écrans dans l'écran, où un réalisateur, pour une raison ou une autre, décide de filmer des écrans. Dans certains cas, l'écran devient même le lieu unique de l'action. On a déjà évoqué dans cette chronique le cas de Noé, le court-métrage remarqué où l'on suivait la rupture en direct subie par le héros via Skype, Facebook et Chat Messenger. Le concept a été porté à son apogée avec le long-métrage Unfriended, une sorte de souviens-toi l'été dernier qui se déroulerait uniquement sur Skype. On revient ici d'ailleurs à la question adolescente qui semble décidément la première ciblée par cette fusion entre histoire et interface. Plus qu'un journal intime numérique, notre smartphone ou notre ordinateur portable nous permet alors de communiquer encore plus intensément qu'avant, de tout partager, tout liker, tout commenter. Et ainsi, un seul message peut faire basculer la fiction, enclencher une crise et donc créer une histoire. Le fameux élément déclencheur de la structure narrative du conte de fées, quand le héros recevait par exemple un pigeon lui annonçant que sa promise avait été enlevée par un méchant dragon, peut aujourd'hui intervenir sous forme tout simplement de SMS. Sur Netflix, on avait l'impression que la série Marseille a utilisé les textos uniquement pour mettre en avant son placement de produits Microsoft, pour ne pas le nommer, sans se soucier de la cohérence narrative. Heureusement, d'autres cinéastes se sont récemment approprié la question de l'interface de manière plus intéressante. Dans Personal Shopper d'Assayas et dans Elle de Verhoeven, tous deux vus à Cannes, les héroïnes reçoivent toutes deux des SMS d'un mystérieux expéditeur. Sans en dire trop sur l'histoire, et si on occulte aussi le fait qu'il est techniquement difficile d'envoyer des SMS en numéro masqué, tant pis pour la vraisemblance. Ce qui est intéressant finalement dans ces deux films, c'est que les deux réalisateurs n'ont pas peur de filmer des écrans de téléphone comme des éléments vivants, de véritables extensions de leurs propriétaires, et donc agissant comme des éléments déterminants de l'intrigue, et non plus comme des simples accessoires, symboles de modernité. Pour finir, un dernier film présent à Cannes et bientôt sur nos écrans a intégré la communication numérique non seulement à son histoire, mais aussi à son esthétique. Je parle de Divine, le premier film d'Ouda Beniamina, sacré caméra d'or, qui a imposé une mise en scène Snapchat complètement inédite, en intégrant non seulement la prise de vue à la verticale, dès le générique d'entrée, mais aussi au cœur du film, où le cadre passe aléatoirement de l'horizontale au vertical de manière fluide et totalement organique. Dans Divine, les héroïnes ne se posent même plus la question de l'écrit, elles ne s'envoient plus de SMS, elles s'envoient des snaps. L'interface est donc bien une forme créative, souple et évolutive, qui, loin de désincarner les personnages, les rend d'autant plus vivants.
Merci, pardon, Oriane, pour cette chronique. Je me suis étouffé sous l'évocation de toutes ces références. Est-ce que vous, quand vous travaillez sur des jeux vidéo, c'est des références que vous avez en tête de vous nourrir justement de ce que le cinéma peut utiliser pour justement réfléchir sur votre usage du mobile en tant que concepteur de jeux vidéo ?
Le format vertical devient dominant, ça c'est sûr. Déjà, le marché mobile est dominant dans le jeu vidéo, il faut voir quelque chose. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous sortez un jeu, vous avez vocation à faire de l'argent. Et les ventes mobiles peuvent aller à, on va dire, en premium 10 000, 20 000, 100 000. Plus, même si la chance vous sourit, les ventes Steam sur PC sont en général beaucoup plus faibles. C'est-à-dire que fini le temps où on vendait 1 million de jeux sur PC, maintenant des bonnes ventes sur Steam, c'est 20 000 ventes. Voilà, et vous êtes très content. Donc, dominance du marché mobile. Au Japon, n'en parlons pas. Nintendo va se mettre au mobile.
Donc, les concepteurs de jeux vidéo conçoivent de plus en plus pour le mobile parce que
c'est... Ah non, mais le marché mobile est dominant, ça c'est un fait. Maintenant, le format vertical, du coup, s'impose un peu. Voilà. Mais d'autres formats aussi, c'est-à-dire d'autres paradigmes, c'est-à-dire l'asynchronie, c'est-à-dire le fait de jouer en multijoueur ou non, mais à tout moment de pouvoir s'arrêter parce que vous êtes arrivé à la station de métro ou vous avez reçu un coup de fil. Donc l'asynchronie, le fait de jouer en petite séquence, mais de maintenir quand même l'attention. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, le tour par tour, on n'est plus des jeux de plateforme, des choses comme ça. Du coup, indirectement, le board game. Et ce qui est très intéressant, c'est que face à ce succès-là, le succès rejaillit sur les séries télé. Et quand vous voyez Studio Plus, par exemple, aujourd'hui, ils sont limités à commander des séries en vertical, mais en tout cas, ils sont sur des formats de 10 minutes.
Mais ils vont en faire, d'ailleurs. Ils vont faire des séries en vertical, Studio Plus.
Qu'on pourra avoir donc directement sur son téléphone et qu'on ne tournera
plus
en horizontal.
Studio Plus, c'est donc une application qui va sortir à la rentrée, financée intégralement par Canal+, avec des nouvelles séries digitales, hein, qui est le nom qu'ils utilisent pour dire web-série.
C'est le Netflix de Canal.
Voilà. Et c'est vrai, effectivement des séries qui seront conçues uniquement pour être mobile et tablette.
Oui, et je pense qu'il serait heureux d'avoir des séries avec les codes des jeux vidéo, par exemple. Voilà.
Qu'est-ce que tu veux dire, les séries avec les codes des jeux vidéo dans le...
Parce qu'aujourd'hui, le format vertical, ce n'est qu'un code tiré du jeu vidéo, mais pourquoi ne pas intégrer la synchronie dans une série, par exemple ? Je veux dire, pourquoi ne pas intégrer... parce que, si vous voulez, aujourd'hui, par exemple, voilà, je travaille actuellement sur un livre dont vous êtes l'héros pour une maison d'édition, ça parle de jeunes dans un collège. On parle de irréputation, on parle de Snapchat, on parle de drame du style la fille, elle a envoyé une photo de ses seins à son mec et le mec il l'a mis sur internet. Je peux pas, c'est fini, on va dire, la bibliothèque verte d'antan. Il faut leur parler de trucs qui leur arrivent malheureusement, ne serait-ce qu'à titre pédagogique, tu vois. Donc, oui, le futur nous rattrape et il faut être prêt. Moi-même j'ai quasiment 40 ans, je suis sur Snap toute la journée. En producteur, tu vois, donc, et c'est une nécessité parce que je dois vendre mes produits et c'est là qu'est mon public. Plus sur Twitter.
Voilà. D'accord. Donc maintenant tu cumules et Twitter et Snapchat.
Même Twitter, je l'ai Instagram. Un peu. Si je pouvais dire à mes twittos, allez sur Snap, bon, après, ça pénètre pas tant que ça en France par rapport aux gens qui me suivent sur Twitter, mais je conquiers un nouveau terrain et je pourrais vous en parler aussi beaucoup de Snapchat, mais le taux d'engagement est énorme sur Snapchat.
Periscope aussi, non ?
Non, Periscope, enfin, à titre personnel, Periscope ne me réussit pas trop. Voilà.
Et toi, Myriam, du coup, l'évocation comme ça de ces références cinématographiques, la manière dont tu utilises les interfaces ?
Alors, je pense surtout, ça m'a plus fait penser au sujet, en fait. Par exemple, des séries comme Black Mirror, qui évoquent vraiment... Enfin, c'est exactement ce que tu disais, en fait, le futur nous rattrape. Et c'est assez rigolo parce qu'il y a des trucs qui ont été montrés dans cette série, et aujourd'hui, on regarde, mais en fait, c'est pas vraiment de la science-fiction, c'est de la science et c'est maintenant. Et ça peut être assez dérangeant, la façon dont c'est montré. Et du coup, je trouve ça super intéressant parce que ça permet à la fois d'ancrer un peu plus ce qu'on appelle science-fiction dans le réel et en même temps de faire un peu réfléchir les gens sur notre usage quotidien de nos smartphones, de Facebook, de Twitter, etc.
D'accord. Donc pour conclure, si vous aviez un dernier conseil à donner aux personnes qui veulent se lancer dans la scénarisation, dans la création de jeux vidéo, on a eu un conseil tout à l'heure par Fibre Tigre qui recommandait d'aller faire des jams, mais par quel bout est-ce que vous recommanderiez de commencer pour justement s'attaquer à quelque chose qui suscite autant de passion et de vocation aujourd'hui?
Alors que ce soit dans les classiques ou dans l'écriture non linéaire, que ce soit dans les jeux vidéo ou l'écriture non linéaire de plus en plus largement, il est très important de connaître ces classiques. Et les classiques, ça commence en 1967 dans Libération avec Raymond Queneau qui écrit le premier texte interactif en paragraphes tels qu'on les connaît. Donc il faut connaître, je suis désolé, il faut lire Le Sorcier de la Montagne de Feu, voilà, il faut lire, après il faut lire les jeux de rôle, que ce soit Vampire qui décrit des open world en 1990, il faut se renseigner sur la structure des jeux vidéo, comment on les écrit. Et en connaissant vos classiques, vous pourrez faire du futur. Et à l'heure actuelle, aujourd'hui, on est un petit peu en retard par rapport à ce qu'on devrait être dans le jeu vidéo. Parce que justement, dans les années 2000, il y a eu une grosse déperdition de ça. Voilà.
D'accord. Donc, potasser ces classiques pour Fibre Tigre et toi, Myriam ?
Je dirais aussi qu'il faut jouer. Mais il ne faut pas jouer en tant que consommateur. Il faut jouer en tant que je veux faire des jeux. Donc, j'analyse ce à quoi je suis en train de jouer. Et j'essaye de voir comment je peux le décomposer. Qu'est-ce que je peux reprendre de ça ? Qu'est-ce qui est intéressant ? Comment la personne qui l'a faite, comment elle l'a fait ? Pourquoi elle a fait comme ça ? Et d'essayer de s'en inspirer derrière pour... redigérer tout ça quoi, et essayer d'en faire quelque chose.
Jouer avec une posture un peu plus active et analytique pour arriver
La question à se poser, c'est comment j'aurais fait pour faire encore mieux que ça ? Si vous arrivez à trouver la solution, c'est que vous commencez à progresser.
Écoutez, on va vous quitter sur cette magnifique question de Fibre Tigre. On vous remercie tous les deux, Myriam Wally et Fibre Tigre, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Aujourd'hui. On rappelle, Normal Lost Phone, il y a une campagne Ulule qui est donc en cours à l'heure actuelle à laquelle vous pouvez contribuer. Et Fibre Tigre, la sortie
Out
de
Out There Chronicles
dans deux semaines. Vous pourrez retrouver tous les liens de l'émission sur notre page Facebook et également sur la page de l'émission sur le site radiocampusparis.org. Merci à Oriane pour sa chronique de ce soir et encore merci à Marine de Saint-Seine, Rémi Reboulet et Christine Semen pour leur chronique tout au long de cette année. Aujourd'hui, à la réalisation Crétu, nous avions la chère Charlène Nouilloux, légende des platines parisiennes et des studios radiophoniques de France et de Navarre. Quant à nous, nous nous retrouverons à la rentrée pour de nouvelles aventures. Nous n'avons pas encore trouvé les héros. En tout cas, si vous avez des suggestions de héros, de sujets ou d'invités, n'hésitez pas à nous écrire. Déclic saison 1, c'est terminé. Bon été à vous.
Magnifique.